Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
La lutte ouvrière présente des candidats dans toutes les circonscriptions pour ces élections européennes. Vous êtes donc tête de liste en Ile-de-France. Est-ce que vous avez vraiment envie de siéger au Parlement européen ?
Ah mais si je suis élue, je siégerai. Arlette Laguiller a été élue en 99, on avait 3 élus, lutte ouvrière, elle a siégé évidemment, oui. Et elle y a défendu justement les perspectives propres aux travailleurs, les intérêts des travailleurs, bien évidemment.
Vous avez envie d'y être au Parlement européen ?
Écoutez, la réalité, c'est que aujourd'hui notre courant, il est minoritaire. Et vous avez vu quand même que les élections européennes étaient très, très antidémocratiques, y compris en Ile-de-France. Pour pouvoir avoir un élu, il faut dépasser les 8,5%. Donc la réalité, c'est que c'est un vrai obstacle de toute façon. Mais moi, je crois qu'il y a une chose qui est utile de faire dans ces élections, justement, c'est de s'exprimer, de dire la colère qu'on a de voir ce gouvernement aux ordres du patronat et piétiner les travailleurs, les chômeurs, les retraités, les plus modestes. Donc il y a une chose d'utile à faire dans ces élections, c'est celle-là.
Mais cette campagne européenne, c'est pour vous juste une tribune ou c'est une occasion de défendre une certaine vision de l'Europe ?
Vous savez, d'abord, ces élections au Parlement européen, elles ne changeront rien. Et il faudrait être naïf pour croire le contraire. Quand on a vu, y compris l'élection présidentielle, quand on nous a expliqué pendant toute une campagne que le changement c'est maintenant, que effectivement Hollande a été élu et qu'au bout du compte on le voit faire la même politique que Sarkozy, on se rend bien compte que ce n'est quand même pas par les élections que les choses changent. Donc là, je crois que c'est clair et net, ça ne changera pas la politique de l'Europe, l'avenir des travailleurs et des peuples d'Europe, cette élection-là. Bon, maintenant moi ce que j'espère, c'est qu'effectivement, ce soit un moyen pour des millions aujourd'hui, encore une fois, de chômeurs, de travailleurs, de retraités modestes, de dire leur colère. Vous savez, on est confronté aujourd'hui à une provocation du gouvernement, une provocation de Valls. Parce que vraiment, prendre 50 milliards dans la poche des classes populaires pour le donner au grand patronat, à ce patronat qu'on voit en train de brasser des milliards, se racheter les uns les autres, c'est une provocation. Et cette provocation, eh bien, elle ne doit pas rester sans réponse. C'est un moyen, effectivement, encore une fois, de désavouer ce gouvernement, de faire entendre une colère ouvrière.
Quand vous dites que ça n'est pas par les élections qu'on fait changer les choses, c'est comment alors ?
Eh bien, c'est par les luttes et c'est par le rapport de force. Vous savez, qu'est-ce qui peut faire reculer Valls, qui est droit dans ses bottes ? Ça, il me rappelle un peu Juppé, de ce point de vue-là.
Il a pas employé l'expression, lui, mais enfin, vous considérez qu'il est droit dans ses bottes.
Écoutez, voilà, très sûr de lui, c'est ses mouvements de menton, et voilà, je passerai dans tous les cas, etc. Qu'est-ce qui peut l'arrêter ? Qu'est-ce qui peut arrêter effectivement tous ces coûts-là qui se préparent à coûter 10 milliards de coupes dans la santé, alors qu'on sait qu'aujourd'hui c'est de plus en plus cher, de plus en plus difficile de se faire soigner pour tout un tas de choses qu'il faut payer et qu'un certain nombre d'entre eux n'y arrivent plus pour les dents, donc ça, il faut pas le laisser passer. Et si on veut l'empêcher, eh bien il faut effectivement se mobiliser. Il n'y a que le fait de prendre la rue, d'être des millions à se lever, comme avec Juppé. C'est ça qui l'a fait reculer. C'est la mobilisation et la force collective. Et si depuis maintenant plusieurs années, et même si ce n'est pas une décennie, les travailleurs reculent dans leurs conditions de vie, dans leurs conditions de travail, c'est parce que justement il n'y a plus ce rapport de force-là.
Et pourquoi selon vous aujourd'hui le Front National est le premier parti ouvrier ?
Eh bien justement, parce que le premier parti ouvrier, je ne vais pas discuter ça.
Mais c'est lui qui fait le meilleur score chez les ouvriers.
Parce que tout simplement, justement son poids il est proportionnel en quelque sorte, inversement proportionnel à la combativité. Et tant qu'il n'y a pas cette combativité, quand il n'y a pas cette conscience qu'on peut changer collectivement les choses, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on se résigne. Et vous savez, comme quelqu'un se noie et essaye de se raccrocher à n'importe quelle planche pourrie, eh bien voilà, aujourd'hui un certain nombre croit pouvoir se raccrocher à cette planche pourrie qui est le Front National. Mais le Front National, pour les travailleurs, c'est un véritable ennemi.
Et lutte ouvrière, c'est une planche saine.
C'est pas une planche, justement. Nous ne disons pas raccrochez-vous à nous, votez pour nous, vous allez voir ce que vous allez voir. Nous disons aux travailleurs, vous êtes les plus nombreux, vous êtes à la base de tout dans la société, vous produisez tout. C'est vous qui portez toute la société. Eh bien, vous êtes capable de faire valoir vos droits aussi, et vous êtes légitime à revendiquer, légitime à dire, nous, c'est l'emploi d'abord, c'est les salaires d'abord, c'est les retraites d'abord, et les profits, les dividendes, les cours boursiers, ils attendront. Tous ces gens-là, ils peuvent attendre. Et la réalité, c'est que d'ailleurs, ils sont plein de milliards. Donc, eux doivent passer après. Donc, voilà, nous disons aux travailleurs, ça dépend de nous tous, collectivement. Donc, on se fait pas l'avocat ou le sauveur suprême. Nous disons, non, il n'y a pas de sauveur suprême, c'est les luttes collectives.
Un ouvrier qui vote Front National, comment vous le qualifiez ?
Il se trompe.
Une victime ou un imbécile.
Mais il se trompe, mais vous savez, comme il s'est fait tromper aussi par beaucoup d'autres, y compris à gauche, y compris par Mitterrand.
Oui, mais il se trompe par quoi ? Par naïveté, par bêtise ?
Mais encore une fois, quand on... par le fait que, pour prendre conscience, hein, quand on est exploité et quand on subit les coups et quand ça fait des années et des années, bien finalement qu'on les subit, prendre conscience qu'on peut changer ça, qu'on peut inverser ça, bah c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Mais moi, je suis convaincue que tôt ou tard ça viendra parce que y compris on n'aura pas le choix. On voit bien que ce patronat il a pas de limite. Hein, regardez Gattaz, maintenant il en est à parler d'un sous-smic hein, pour les jeunes. Il a tout de suite
il est pas le seul d'ailleurs
utilisé et il est pas le seul, y compris Monsieur Lamy, un
Pascal
socialiste,
Lamy, oui.
Qui nous explique que...
L'ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Oui.
Exactement, un petit boulot, ça suffira. Non, ça, c'est pas vrai. Et compris quand on voit aussi Gattaz expliquer que, bah, finalement, ce que fait l'État dans la fonction publique, c'est-à-dire le blocage des salaires, qui est vraiment c'est une mesure scandaleuse, et bien que finalement, ça pourrait être généralisé à tout le monde, on voit qu'il n'a pas de limite. Hein, donc, il va falloir effectivement, tôt ou tard, renouer avec ces combats collectifs.
Alors, il y a sur le site internet de Lutte ouvrière un appel à se mobiliser pour les élections européennes. Et dans le texte en question, il est beaucoup question des bourgeois. Le terme revient souvent. C'est un terme un peu désuet, qu'on n'entend plus beaucoup. Qu'est-ce que c'est un bourgeois ? Comment on le définit, le bourgeois ?
On ne l'entend pas assez.
Eh ben, vous voyez, déjà deux fois que je le dis, vous allez le dire. Alors, qu'est-ce que c'est un bourgeois ?
Eh bien, c'est tous ceux qui apportent ces capitaux. Vous voyez, c'est les Bouygues, c'est les Bettencourt, c'est les Pinot, et c'est ceux-là qui font l'économie. L'affaire Alstom...
Mais eux ne sont pas seulement des bourgeois, vous parlez de milliardaires, là.
Mais ils font quoi de leurs milliards ?
Ça commence où,
eh bien,
le bourgeois ?
Ces milliards-là, ils sont investis dans tous ces grands groupes qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps et qui font toute l'économie. On a parlé d'Alstom, là, depuis maintenant 3 semaines, hein, et tout le monde se dit, mais c'est catastrophique, il risque d'y avoir des licenciements encore à Belfort et puis à l'échelle du pays et les conséquences sur les sous-traitants. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Bah, c'est justement la dictature de cette bourgeoisie qui effectivement possède les capitaux et en vertu du fait qu'ils apportent les capitaux, ils peuvent décider de tout. Hein, et y compris de vendre les travailleurs, de les louer, de les licencier, etc. Et nous, c'est cette dictature du grand capital que nous dénonçons, effectivement.
Donc, votre terminologie n'est peut-être pas très appropriée. Vous devriez plutôt parler de capitaliste que de bourgeois. On peut être bourgeois et de gauche, non ?
Pour nous, c'est... Non, mais...
Bourgeois de gauche, c'est possible ou pas ?
Je ne vais pas discuter de où vous mettez la frontière. Moi, la frontière de la richesse. Hein. Moi, effectivement, ce que je vois dans la société, c'est qu'il y a des gens qui doivent aller se vendre pour travailler, qui n'ont pas d'autre choix hein, que de se faire embaucher, et il y en a d'autres qui achètent. Donc c'est cette inégalité-là, cette injustice-là fondamentale, hein, et qui fait d'ailleurs que quand on est un simple travailleur, eh bien, on n'a même pas le choix. Hein, de pouvoir garder son emploi, garder son salaire et d'être assuré, effectivement, de pouvoir vivre.
En un mot, Vladimir Poutine sera présent le 6 juin pour les cérémonies d'anniversaire du débarquement en Normandie. Il y a sa place ou c'est choquant compte tenu de la situation en Ukraine ?
Alors moi, cette caricature qui est faite autour de l'Ukraine, hein, en présentant Poutine comme vraiment le méchant, c'est le retour du tsar. Et puis de l'autre côté, les puissances occidentales, hein, qui défendraient la paix, la prospérité, la démocratie dans le monde et en particulier en Ukraine, je trouve ça révoltant. La réalité, c'est qu'il y a un bras de fer entre les Occidentaux et Poutine, que ni les uns ni les autres n'apporteront la paix là, et sont des exemples en matière de démocratie, hein. Ni les uns, ni les autres, je dis bien, parce que y compris les Occidentaux, quand ils soutiennent effectivement un gouvernement dans lequel il y a des pro-nazis, hein, je pense qu'ils pourraient aussi balayer devant sa porte.
Merci Nathalie Arthaud. Bonne journée.
Merci.